Bienvenue au Champ Libre, merci d'être là et on est ravis d'accueillir François Bégodeau qui va nous présenter 6 livres qu'il a marqués. Et puis voilà, je lui laisse la parole. Alors juste avant, vous allez pouvoir retrouver tous les livres à la bibliothèque pour les emprunter et vous pouvez aussi les acheter au forum juste là si vous voulez. Voilà, je vous laisse la parole, merci.
Merci, bonjour à tous. Alors quand on m'a proposé de présenter 6 livres que j'aimais particulièrement, comme souvent devant ce genre de questions, c'est comme quand on vous demande vos 5 films préférés, c'est compliqué quoi, parce que souvent on a l'impression d'avoir un océan devant soi où il n'y a plus de repères, tout est brouillé. Donc j'aime bien je me suis donné un principe réducteur, circonscrit, donc si je ne vais pas vous présenter mes 6 livres préférés de tous les temps, je me suis donné deux principes de circonscription. Premièrement, des contemporains vivants, c'était mon critère. Donc, par exemple, Shakespeare ne sera pas dans le lot. Et deuxièmement, des Français, parce que j'aime mon pays, parce que je voulais défendre. Je lis pas mal mes contemporains, j'aime bien ça. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie du travail d'un écrivain, de lire ses semblables. C'est intéressant. Quand on écrit, on se situe aussi par rapport à ce qui s'écrit. Il faudrait voir comment on se situe, mais on se situe quand même un peu. Et je pense que c'est important. Et deuxièmement, moi je lis essentiellement des Français, pas du tout par chauvinisme, mais parce que c'est vrai que j'aime bien lire le texte original. Alors que dans une traduction, il y a toujours un petit doute comme ça sur le fait à quoi est-ce que j'ai affaire. Ça ne m'a pas empêché d'adorer encore Dostoïevski, Kafka, Faulkner et plein d'autres étrangers, y compris contemporains. Mais c'est vrai que je dois dire que dans l'année, parmi les livres contemporains que je peux lire, je pense qu'il y en a bien 80-90% qui sont français. Voilà, donc je vais essayer de... Alors j'ai pris pas forcément non plus les 6 livres que je trouve les plus forts des gens qui en France actuellement écrivent et qui sont vivants, mais c'est des livres que je trouve forts et que j'avais envie de présenter, peut-être aussi parce que pour la plupart, pas tous, ils sont pas si connus que ça, et donc c'est toujours pas mal comme ça d'inciter à lire des choses qui n'ont pas forcément le privilège d'être mis en lumière par les jeux plus ou moins arbitraires de la visibilité médiatique. Je commencerai par un livre qui vient de sortir, il est sorti en janvier. Il s'appelle « Dans la ville », Flammarion, d'Élodie Fiaban. Élodie Fiaban, c'est son premier roman. Je dis tout de suite que je connais Élodie Fiaban. Alors, est-ce que ça veut dire que ça biaise ce que je vais vous dire? Sans doute. Il se trouve qu'elle... Je la connais pour d'autres raisons. Mais quand elle m'a envoyé son manuscrit, enfin, en tout cas, elle m'a fait lire il y a 1 ou 2 ans, je lui ai tout de suite dit « Tu viens d'écrire un parfait petit livre ». Et je pense que ça résumait assez bien ce que j'en pensais. Dans parfait, il y a vraiment parfait. Dans petit, il y a petit, au sens de taille, de dispositif. Et c'est pas réducteur de dire petit, mais c'est presque pour l'identifier. C'est un livre qu'on pourrait appeler qui appartient à une littérature mineure. Mais littérature mineure ne veut pas dire littérature importante. C'est-à-dire qui essaie de se donner un périmètre réduit et de travailler ce petit périmètre plutôt que de viser comme ça à faire des grands livres très universels qui brassent 500 000 sujets en même temps avec 43 personnages. Il peut y avoir des très grands livres de cette facture-là, mais moi j'aime bien qu'un livre, pour moi, peut commencer par une espèce de découpe d'une situation. Et en fait, là, la découpe pour Élodie lui a été offerte par le réel, comme il arrive assez souvent, puisqu'elle a fait, je crois, il y a 2 hivers, il me semble, oui, elle a fait des maraudes pour, alors je crois que c'est l'Armée du Salut, donc maraude humanitaire, sociale, quoi, où il s'agit de marauder en ville, alors c'était Paris, pour repérer un certain nombre de sans-abri, de SDF, et bah, leur proposer du café, des choses comme ça, ou des soins si besoin. Voilà. Donc elle a passé 2-3 mois à faire ça, un hiver, je crois qu'elle l'a fait l'hiver d'après aussi, et elle en a tiré un livre. Donc vous avez tout de suite un dispositif qui est très simple, c'est des petits chapitres. En gros, il y a quelques petites exceptions, mais il y a... chaque chapitre traite d'un SDF, en tout cas d'un soir où ils approchent de celui-là ou de celle-là. Et il se passe ça, elle raconte ça. C'est une espèce, on peut appeler ça un livre documentaire, on peut l'appeler comme ça. Et ben, oui, je trouve qu'elle s'en est très très bien sortie pour rendre compte de cette affaire-là, que ça lui donne tout de suite une structure qui est très simple, à laquelle elle s'est tenue d'ailleurs, parce qu'elle raconte très peu de choses, la narratrice raconte très peu de choses de l'antériorité. Elle ne va pas beaucoup épiloguer sur ce qui a fait qu'elle s'est mise à faire ça, sur sa vie extérieure, etc. Elle se concentre véritablement sur la situation qu'elle a circonscrite. Bon, pour vous donner une petite idée de ce qui est fort dans le livre, ce qui est, comme d'habitude, dans tous les livres forts, c'est d'avoir son style, c'est sa phrase. Je vais vous en lire quelques-unes comme ça, en essayant d'aller un peu vite parce qu'il faudrait que je parle des autres livres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, là, disons, l'écueil, ça serait quoi quand vous faites un livre là-dessus sur les SDF, quoi, qui serait un peu des pauvres au carré, des souffrants emblématiques qui n'appelleraient que compassion. Et en creux de cette compassion, le livre contiendrait une sorte de plaidoyer pro domo ou d'éloge de soi, quoi. D'ailleurs, ouais, moi, Élodie, qui n'est pas nommée comme Élodie d'ailleurs dans le livre, ah, j'ai quand même été une sacrée nana, quoi, de faire ça pendant 2 mois. Bah, je suis altruiste, je suis généreuse, je suis vraiment quelqu'un de bien. C'est ça que j'ai. D'abord, c'est ça que j'ai à vous dire, sous couvert de vous donner des nouvelles de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, qui n'a même pas de quoi se loger. En fait, je suis en train de vous dire quand même que je suis quand même une fille bien, quoi. Bon, alors, évidemment, ça, un écrivain ou une écrivaine qui se lancerait dans cette modalité-là, il se condamnerait, pour moi, à écrire un sale livre, à se payer un peu sur la bête, etc. Et c'est évidemment, Elodie fait, je dirais pas l'inverse, mais en tout cas, elle se méfie beaucoup de cet écueil-là. Donc, elle va beaucoup mettre en évidence ses propres affects et pour montrer que c'est quand même un peu plus compliqué et un peu moins simple que dans un film manichéen de dire que les gens qui font ça sont des gens super et ils le font pour des raisons super. Tout simplement parce qu'ils sont plus moraux et vertueux que les autres. C'est un peu plus compliqué que ça quand vous scannez vos propres affects. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va beaucoup décrire les gens, les SDF qu'elle croise, qui sont d'ailleurs, c'est très disparate, hein, évidemment, il y a des conditions très très différentes et on en apprend beaucoup. Mais elle va aussi rendre compte de ses propres affects, de ce qui lui traverse le corps quand elle est en train de faire la maraude, quoi. Alors, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, page 19, elle dit, j'ai l'impression d'être Bernard Pivot, j'adore. Ça a toujours été mon rêve, en fait, être Bernard Pivot. Bon, après, ça s'est pas fait comme ça. J'étais plus doué pour le foot, donc bon, je suis parti plus là-dessus. Alors, ils viennent de sauver un SDF qui était vraiment mal, quoi, qui était en hypothermie, etc. Elle dit, plus tard, je verrai cette même excitation immorale chez mes coéquipiers en intervention. Je la reconnaîtrai. Trouver le bon geste face à l'urgence fait partie de la tension et du plaisir. Tiens, 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 du plaisir. Ah, tiens, on nous dit qu'en fait, les maraudeurs prennent du plaisir à ce qu'ils font. Bah oui, bien sûr, évidemment. Tension. Tension, parfois c'est pas facile, il fait froid, les nuits sont longues, parfois il faut qu'on nettoie un SDF qui vient de se pisser dessus. Oui, mais plaisir. Plaisir, bon, d'abord, ouais, d'aider, plaisir. Et puis là, il y a une espèce d'adrénaline qui lui est montée, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment presque une histoire d'urgence vitale. Et que donc là, il y a le plaisir d'avoir sauvé la vie de quelqu'un, tout simplement, quoi. Donc le livre avance comme ça sur deux jambes, en quelque sorte, quoi, où elle est. Elle se scanne autant qu'elle scanne les SDF et elle essaie vraiment de montrer avec honnêteté ce qui se joue dans ce genre de geste. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'en fait les maraudeurs sont des gens qui ne pensent qu'à leur gueule. C'est pas ça. C'est juste pour dire la vérité. Ce qui devrait être le principe de la littérature en général, notamment de la littérature documentaire. J'en lis encore une ou deux pour vous donner un petit. Dans le même genre d'idée, page 27, elle dit. Avant de faire des maraudes, j'avais peur des SDF que j'allais rencontrer de l'alcool, de cris continus, de coups imprévisibles. Mais les crises attendues, espérées peut-être, ne viendront pas. La plupart des SDF que j'ai vus sont amorphes, à moitié endormis et bêtés. Là, il y a plusieurs infos. Ce qui m'intéresse évidemment par rapport à ce que je disais précédemment, c'est mais les crises attendues. Alors évidemment, elle s'attendait à ce qu'il y ait des crises, c'est ça qu'elle veut dire. Virgule espérée. Tiens, tiens, tiens. Elle espérait qu'il y ait des crises. C'est intéressant ça. C'est un petit peu le syndrome du vigile, qui est agent de sécurité chez Auchan. Évidemment qu'il espère le vol. Parce qu'il se fera moins chier. Et c'est ça. Et après, il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce que c'est qu'un agent de sécurité ou un vigile. Hein. Tout n'est pas plaisant dans cette affaire. Alors, au passage, elle donne quand même une information qui est très intéressante, mais elle le donne presque sous le mode de la déception. J'attendais des crises, des cris, des choses comme ça. Et en fait, j'ai le plus souvent affaire à des amorphes, à des gens qui sont éteints. Ça, je trouve que c'est une très belle. C'est un truc qui ressortait par exemple aussi du très beau livre assez semblable d'ailleurs de Joyce Ormond sur la folie. C'était immergé dans un hôpital psychiatrique pendant un an. Et il en ressortait que contrairement à la représentation majoritaire et spontanée, je dirais, de ce que pourrait être l'ambiance d'un hôpital psychiatrique, on entend des cris, on entend des crises, on entend des fous qui se débattent dans tous les sens, qui sont dangereux, etc. Ce qui frappait beaucoup Joyce Ormond, c'était au contraire qu'ils sont amorphes. Alors, ils sont éteints, on sait bien pourquoi, puisqu'ils sont extrêmement shootés au médoc. Mais c'est quand même ça qui ressort. Et c'est ça aussi que reconnaît Elodie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, contrairement à ce que peut-être elle espérait ou craignait, les deux en même temps. Vous voyez, ça, c'est des sentiments subtils, ça. Je pense qu'elle en avait peur, et en même temps, c'est aussi ce qu'elle attendait, quoi. Elle attendait d'être un peu secouée. Ouais, j'en fais une dernière, on va passer à autre chose. Oui, à un moment, elle fait le portrait de des gens, de ses coéquipiers, parce qu'elle elle, elle va, il y a toujours un chef dans le fourgon, et puis il y a une équipe avec des coéquipiers qui peuvent varier d'une semaine à l'autre, parce qu'elle le fait une fois par semaine. Alors donc, il y a une certaine Gaëlle, chargée de marketing comme sa mère. C'est intéressant, ça, oui. Ça, c'est ce que j'appelle écrire, oui. Vous donnez une information sur Gaëlle, bon, bah, elle fait des maraudes, mais dans la vie, elle est chargée de marketing comme sa mère. Bah, pourquoi dire comme sa mère? Quel intérêt? Bah, moi, je vois l'intérêt. Bon. Et Adrien, militaire à la retraite comme son père. Bah, tiens, vous voyez, en deux lignes, vous avez toute la production sociale, quoi. Bon. Ont en commun une vie. Il ne s'agit pas de stigmatiser ces gens, il s'agit de les nommer. C'est comme ça. Ont en commun une vie de. Il y a des gens qui sont profs de père en fils, je sais de quoi je parle. Ont en commun une vie de classe moyenne blanche citadine dans laquelle ils ont de l'énergie en trop. Tiens, tiens, tiens. Oui, bon, donc. Adrien et Gaël sont surtout des gens très bien, qui ont envie de s'occuper des SDF, qui se sont dit quand même, on a des vies de cons, il y a des gens qui dorment dehors, et on va essayer de les aider. Oui, très bien, et merci Adrien et Gaël. Mais ils se sont dit aussi qu'ils avaient de l'énergie à vendre. Voilà. Et plus tard, elle parlera d'une recherche d'intensité, un peu plus tard. Vous voyez, c'est un peu. Alors, il y a plein d'autres choses dans ce livre-là, j'ai mis en avant cet axe-là. Je pourrais, par exemple, vous parler de l'humour du livre, allez, vite fait, parce que sinon, j'aurais donné une image biaisée du livre, parce que c'est un livre très, très drôle par ailleurs. Alors, je l'ai mis quoi, ça? Page 109. Parce que la narratrice, justement, comme elle a de la distance sur elle-même, ce qu'elle fait très bien, c'est d'arriver à rendre compte d'un truc très intéressant. C'est comment une ville, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'état objectif d'une ville. La ville, c'est comment on l'habite. Et il y a autant de façons d'habiter une ville qu'il y a d'habitants. Et on ne voit pas la même. Et donc, elle, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle maraude dans le quartier où elle habite, qui se trouve être le 13e arrondissement à Paris. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est ce qu'on a appelé grossièrement le quartier chinois, mais qui se trouve plutôt donc rive gauche et des grands immeubles. Un quartier assez singulier, d'ailleurs. Donc, elle habite ce quartier et c'est là qu'elle maraude. Simplement, donc, elle peut passer dans une rue le jour et y passer la nuit, mais ce n'est pas la même rue. Bah d'abord parce que jour et nuit, mais pas que, parce qu'on n'y voit pas les mêmes choses, et surtout, elle n'est pas concentrée sur les mêmes choses. Elle va décrire que quand elle se balade dans cette rue avec sa fille, eh ben, elle pense à autre chose. Elle a une occupation de la ville qui n'est pas la même, quoi. Et inversement, bah, quand elle s'y balade la nuit, elle va être plus attentive à certains détails qui lui échappent totalement. Ça paraît des évidences, mais c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire être, habiter une ville, d'où le titre dans la ville. C'est parce que c'est quand même vraiment très intéressant là-dessus. Donc je cherchais l'humour. Mais je vais le trouver. Pivot était bien meilleur en manipulation de lunettes et de micro, quoi. J'ai pas encore complètement chopé le pli. Oui, par exemple, un dossier de couple est plus facile à administrer lors d'une recherche de logement. On devrait inscrire nos habitués célibataires sur Tinder. Elle parle des SDF, parce qu'il y a des habitués, des gens qui reviennent, qui revoient toutes les semaines et qui tutoient, qui connaissent. Bon. On devrait inscrire nos habitués célibataires sur Tinder, donc application de rencontre pour ceux qui ne l'auraient pas encore pratiqué. À mon avis, personne ici. On n'a qu'à leur créer des profils. Mustapha, 55 ans, très ouvert, positif, moral d'acier, aime rire, le vélo, le thé avec deux sucres et la soupe lyophilisée au curry. Évidemment, elle fait référence à ce que donnent les maraudeurs à manger au SDF pour les dépanner. Donc à plein tout un ton détaché comme ça. Je passe à autre chose, même si j'aurais voulu le citer pendant une heure. Donc, autre livre contemporain qui date de 2018, celui-là, je crois. Alors, ça s'appelle Une vie de Gérard en Occident, donc de François Beaune. Alors, François Beaune. Écrivain très contemporain qui doit avoir, je sais pas, peut-être 40, 45 ans maintenant. Il publie depuis une quinzaine d'années. Il a d'abord publié des livres chez aux éditions Verticales, des éditions que je connais bien. Et puis après, maintenant, après, il en a publié d'autres ailleurs. Ça doit être son troisième ou quatrième livre. François Beaune n'est pas assez connu à mon sens parce que je pense qu'il invente vraiment une littérature qui est aussi dans un registre assez de littérature documentaire. Ça, c'est vrai. Il avait fait deux premières fictions, puis après, il s'est vraiment spécialisé dans le dispositif qui consiste à faire des longs entretiens avec des gens. Et d'en tirer un livre, en faisant entendre un peu la langue des gens. Ça, c'est intéressant, des gens qu'il a interviewés. Alors là, en l'occurrence, le dispositif est un peu plus subtil encore, parce que le dispositif du livre, c'est une adresse. Hein. Dès la première phrase, on a ça, ça commence par. Oui, alors ça se passe à Saint-Jean-des-Oies, ça se passe en Vendée. C'est pour ça que je voulais en parler, ça m'importe. Première phrase, j'avais quoi? Peut-être 15 ans. À cette époque-là, il y avait une petite charcuterie avec ses deux commis, moi débutant, puis mon collègue débarqué d'Algérie, un peu comme toi. Donc, dès le début, on voit que le narrateur parle à quelqu'un, il s'adresse à quelqu'un. Et on va peu à peu, de page en page, élucider cette situation d'énonciation, cette situation d'adresse. C'est le type qui parle, c'est Gérard, vendéen, d'une cinquantaine d'années au moment où il fait ce récit. Et il s'adresse à qui ? Ben, quelqu'un qu'on découvrira presque entre les lignes, à travers quelques petits détails de l'interlocution. On s'aperçoit qu'il s'appelle Aman, on se rendra compte que c'est un migrant, on se rendra compte qu'il est érythréen, qu'il a fui la guerre en Érythrée, cette guerre horrible, etc. Donc on a un drôle de dispositif d'énonciation qui biaise un peu le côté... parce que je pense que François Beaune, pour faire ce livre, a beaucoup écouté Gérard Vendéen. Il a écouté, lui raconté sa vie, et il la restitue là. Mais il la restitue à la première personne, premièrement, comme si c'était Gérard lui-même qui parlait. Et surtout, il lui donne un autre interlocuteur. Et ce qui crée une scène intéressante, une scène d'interlocution intéressante, parce que c'est un Vendéen, un prolo-Vendéen. On aura son parcours, parce qu'il va raconter sa vie. Il a grandi, ses parents tenaient un hôtel, mais un hôtel un peu merdeux, quoi. C'était vraiment pas la grande hôtellerie, donc il est plutôt une enfance pauvre, en Vendée un peu profonde. Et puis après, il a travaillé dans les abattoirs, c'est une espèce de prolétariat un peu au carré. Après, il a été ouvrier dans les usines d'acier. Et là, au moment où il parle, il travaille dans une cantine scolaire. Donc, c'est quand même plutôt un destin de prolo. Et c'est un prolo, on va dire, vendéen, ce qui n'est pas rien. La Vendée étant, je suis vendéen, je m'empresse de le préciser, considéré comme un département un peu fermé sur lui-même, pas extrêmement poreux aux idées progressistes. À tort d'ailleurs, parce qu'il faudrait séparer entre la Vendée du Marais, la Vendée du Bocage. Vendée du Bocage très à droite, Vendée du Marais plutôt à gauche, j'en viens. Et Vendée Open Field, c'est plus compliqué. Bon, il y a trois Vendées en une. Mais là, on est quand même dans le Bocage. Donc, on est quand même plutôt dans l'épicentre, un peu villériste. Donc, Gérard, a priori, Gérard Aman, le casting n'est pas très bon, quoi. C'est pas deux personnes qui vont. Or, là, Gérard, en fait, on s'apercevra qu'il a accueilli Aman et qu'il héberge Aman, en fait. Donc, Gérard est un Vendéen particulier. Et d'ailleurs, on va se rendre compte que cette situation d'interlocution, qui va être détaillée au fur et à mesure du bouquin, il n'arrête pas de dire Gérard, on attend des gens, on attend des gens, on attend des gens, parce qu'on est chez Gérard, et donc il y a Aman, et ils attendent des gens parce qu'en fait, il y a un repas qui va avoir lieu. Et ce repas a été préconisé ou demandé par la députée du coin, qui s'appelle Marianne, ça ne s'invente pas, et qui est socialiste, ça ne s'invente plus, et qui a demandé à Gérard, parce que Gérard connaît plein de gens, ça fait longtemps qu'il est ancré dans ce bled et dans la Vendée, elle voudrait un repas avec des vrais gens. Elle dit vraiment vrais gens, ce qui est typiquement une notion d'élu, quoi, d'homme ou de femme politique. Je veux voir des vrais gens. C'est un peu Gabriel Attal qui, hier, nous dit « je rencontre les Français ». Oui, ce genre de plaisanterie. La farce des politiques, quand même. Jusqu'où iront-ils dans le ridicule ? C'est une parenthèse que j'avais envie de faire. Et donc Marianne, bon, qui a l'air un peu sympa, quoi, parce qu'en fait, elle c'est un peu sincère de sa part. Elle aimerait bien, elle sent qu'elle est un peu déconnectée. Donc elle a demandé à Gérard « rassemble-moi des vrais gens ». Et donc on est voilà, le repas va arriver et là Aman et Gérard, soit Gérard parle à Aman en attendant les gens, quoi, donc là et en attendant les vrais. Et alors c'est intéressant cette notion de vrais gens, parce que je pense que c'est non seulement elle est redoutable, elle est utilisée comme un élément de langage des politiques, donc là voilà, l'affaire est entendue. Mais c'est une question qui peut se poser à une certaine littérature documentaire, quoi. À partir de quel moment est-ce que cette notion de vrais gens a quelque sens que ce soit, quoi. Je dirais, est-ce qu'il y a des gens plus vrais que les autres ? C'est intéressant, ça. Vous voyez, quand vous voulez faire une littérature qui rencontre du réel, est-ce que vous allez vous porter vers certaines personnes plutôt que d'autres, en considérant que certaines personnes porteraient davantage, auraient un coefficient de réalité supérieur à d'autres, quoi. Bon, moi, je ne crois pas du tout. Je crois que ce n'est pas parce qu'on est prolo qu'on est plus un vrai gens qu'un riche. Il y aurait peut-être une chose quand même, les riches sont aussi des vrais gens, mais il y a peut-être une chose quand même qui distingue l'individu populaire, l'individu prolétaire, auquel cas on peut en attendre plus de vérité, bah c'est que dans un point de vue, disons, je dirais classiquement marxiste, précisément le prolétaire est celui qui se prend beaucoup plus de réel dans la gueule que le riche. Il se prend plus de réel dans la gueule. C'est précisément ça, être un prolétaire, peut-être. Il y a du réel qui vous arrive dans la gueule tout le temps, de façon très contraignante. Là où être riche permet, autorise, concrètement et techniquement, de vous sécuriser par rapport au réel, de vous en protéger. C'est ça. Fondamentalement, la richesse vous offre le luxe de pouvoir vous protéger d'un certain nombre de contrariétés qui est le réel qui débarque à votre porte, quoi, qui dit, ben voilà, je suis là, tu vas être obligé de faire avec moi. Donc c'est vrai que quand vous voulez faire une littérature documentaire et réaliste et qui rendrait compte, par exemple, incidemment du réel social, comme on dit, vous avez quand même plus intérêt à aller du côté d'individus populaires. Ça, c'est vrai, de ce point de vue-là. Mais il a fallu, vous voyez, que je fasse 6 phrases pour en arriver là. C'est pas, faut pas décréter que les gens du peuple, comme ça, auraient une espèce de, notamment, de degré d'authenticité qui serait supérieur à la moyenne. Ça serait un faux service à leur rendre, je pense. Et ce qui est intéressant avec Gérard, justement, c'est que précisément, il n'est plus l'objet de la captation de l'écrivain François Beaune. C'est lui-même qui parle. Il a vraiment, François a essayé vraiment de restituer la parole, le style, en tout cas l'oralité de Gérard. Et Gérard est quelqu'un qui pense. Parce que ça peut être aussi un autre écueil, si vous voulez, d'une littérature qui va se pencher très gentiment sur les pauvres malheureux de ce monde. C'est un petit peu, au bout du compte, de les objectaliser. Comme s'ils n'étaient que malheur et souffrance, et qu'ils étaient presque... Comme ils vont être saisis par l'écrivain qui, généreusement, va rendre compte de leur réalité souffrante, ils sont un peu dessaisis ou dépris de leur capacité, tout simplement, à penser leur propre situation. Je ne dis pas que ce soit le cas dans tous ces livres-là, mais je pense que c'est un écueil possible de ce genre de littérature-là, que François Beaune détourne totalement en donnant la parole à Gérard. Et donc c'est Gérard qui lui-même va être un producteur de pensée, de producteur de sens, de producteur d'intelligence. Là, on se rend compte, moi je pense qu'en fait il a dû faire un syncrétisme ou une synthèse entre plusieurs Vendéens qu'il a rencontrés, parce que sinon la vie de Gérard, c'est trop, quoi. Et le type est presque too much, quoi, de drôlerie, d'intelligence. Et il a une grande, grande intelligence d'analyse de sa propre situation. Il y a des trucs, par exemple, très intéressants, notamment en ce moment, par rapport à la grande falsification qui a submergé la France depuis 2 semaines. Une très bonne analyse, très pointue de l'écosystème agricole de Vendée. Très très bonne façon de remettre un peu le réel dans le bon sens avec toutes les manipulations qu'on a entendues depuis quelque temps. Je voulais juste citer, enfin je pourrais citer plein de passages, mais il y en a une que je voulais citer pour montrer ce que c'est que l'oralité, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire écrire oral, c'est une grande chérie aussi ça, hein. Je veux dire, quand vous voulez rendre compte de l'oralité de quelqu'un, bah là, c'est pareil, il y a un danger qui vous pend au nez, c'est de faire de l'oralité très écrite, quoi, de l'oralité, de la fausse oralité, ou comment dire, vous allez aller dans une sorte de truculence linguistique que vous allez un peu outrer sous prétexte de faire oral et de faire populaire. Et en fait, vous allez en fait rendre compte d'aucune... vous allez inventer une langue. Bon, c'est un peu ce que fait Céline. Il le fait avec génie, mais la langue populaire, la dite argotique populaire de Céline, c'est une invention de Céline. Alors, je veux dire, comme Céline a du génie, ça finit par produire une langue. Mais il y a une surécriture ou un surinvestissement argotique de la langue de Céline dont aucun individu des classes populaires n'est capable, enfin, en tout cas, d'une telle densité. Ce que François Beaune a très bien chopé dans l'oralité, au sens où ça concernerait aussi autant les bourgeois que les prolos. Nous parlons tous oralement, quel que soit notre niveau d'étude, nous avons tous des effets d'oralité. J'ai des effets d'oralité à l'heure où je vous parle, je fais des élisions, je fais des raccourcis. Et notamment, c'est ça, en fait, l'oralité, c'est qu'elle se caractérise par les raccourcis. Souvent, à l'oral, il faut qu'on aille vite, ou alors on va être purement efficace à l'oral, souvent. Et donc, on va aller le plus vite possible, donc on va évincer ou ellipser tout un tas de choses. Et je pense qu'écrire oral, c'est produire des ellipses au sein même de la phrase. Je vous donne un exemple. À un moment, il parle d'un type. Je ne sais plus quel type c'est, voilà, peu importe. Et donc, c'est un type... Bon, c'est vrai qu'il a quitté l'école très jeune et sans rien savoir, ce type. Mais un enfant de la communale, bon Dieu, qui a défendu l'école publique, enfin, sauf quand il a eu des enfants, là, direct dans le privé, quand même, pas déconner. Alors c'est intéressant, bon là déjà le contenu est intéressant, ce qui nous évoque aussi certains faits d'actualité, mais ne l'accablons pas la pauvre, je ne la citerai pas, moi j'ai envie de l'embrasser sur la bouche, parce que moi les malheureux j'ai envie de les soutenir, et là elle est mal, Amélie, je suis là, voilà, je te le dis, mais ça faisait longtemps que j'avais dans le collimateur, hein. Je l'avais repéré au ministère des Sports, cette façon de parler totalement insupportable, hein, qui donne. Moi, j'ai jamais donné giflé personne dans ma vie. Hein. Là, je pourrais. Là. Alors, quel rapport avec ce livre? Aucun. Mais donc, je vais revenir à la. Alors, je relis. Mais un enfant de la communale, bon Dieu, alors la communale, l'école communale, qui a défendu l'école publique, enfin, sauf quand il a eu des enfants, là, direct dans le privé, quand même pas déconner. Alors c'est ça l'ellipse, vous voyez, d'abord il y a une première ellipse, c'est... Mais un enfant de la communale, bon Dieu. Alors, mais un enfant de la communale, bon Dieu, là, on ellipse le verbe. Hein, on ne dit pas, mais c'était un enfant de la communale, bon Dieu, qui a défendu l'école publique, point d'exclamation, là, on est vraiment chez Céline, hein, les fameux points d'exclamation de Céline. Enfin, sauf quand il a eu des enfants, donc la petite ironie, évidemment, on est toujours pour l'école publique, sauf qu'à partir du moment où on veut sécuriser le parcours de nos enfants, on connaît bien le truc. Et la dernière phrase, là, direct dans le privé, quand même pas déconner. Là, il y a deux ellipses. Hein. Si on voulait vraiment complètement déplier la phrase, on dira, et là, il les a mis directement dans le privé, il faut quand même pas déconner. Il ne faut quand même pas exagérer. Alors, vous voyez, la beauté de l'ellipse du parler populaire ou du parler oral, quoi, c'est d'aller très très vite. On n'a pas besoin d'en rajouter, on a tout compris en fait. Alors après, on peut déplier la phrase dans le dire. Il est quand même en train de nous dire, bah oui, ce quand même pas déconner, qui enlève le faux, ou il ne faut pas déconner, bah, ça veut dire, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les principes, mais alors quand il s'agit de mes propres enfants, fini de rire, je redeviens sérieux et donc je les mets à l'école privée. C'est tout ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est ramassé dans une expression rapide. Donc vraiment, ce livre est un bonheur, bon, d'abord un bonheur d'intelligence. Bon, on sort en adorant Gérard. Vraiment, c'est très intéressant pour voir. D'ailleurs, je pense que ça chope quelque chose de la Vendée, là, mais je ne vais pas épiloguer. Qui est quand même un passionnant, qui a quand même sa spécificité. Enfin, c'est passionnant. Mais aussi, il y a cette langue, quoi. Cette langue qui est constamment... Alors, au pire, je dirais, c'est du Michel Audiard. C'est-à-dire, c'est presque un peu trop bon mot argotique. Parfois, ça passe un peu par Céline. Mais le plus souvent, c'est tout simplement la virtuosité de l'oralité, quoi. La virtuosité inventive de l'oralité. Bon, je passe aussi. Hop. Mais lisez d'autres livres de François Beaune. Il y en a un que j'adore, qui s'appelle Omar et Greg, qui est très intéressant. Il a interviewé un certain Omar et un certain Greg séparément. L'un vient des quartiers populaires de région parisienne, je crois. Et donc Omar, quoi, plutôt issu de l'immigration algérienne. Et puis l'autre, Greg, il vient, lui, petite classe moyenne blanche de Reims. Et les deux ont un parcours très disparate comme ça. Et tous les deux finiront par se retrouver au Front National. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et donc, vous avez le croisement de leurs récits. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre pour Omar, un chapitre pour Greg, un chapitre pour Omar. Et c'est toujours je. Je pense que François Beaune les a interviewés et il restitue l'oralité en la refabriquant, bien sûr. Il y a quand même tout un travail littéraire. Mais c'est passionnant politiquement, tu vois, de voir comment un Omar peut se retrouver à FN, déjà. Et puis, ouais, sachant que Greg, lui, c'est l'inverse, en fait. Il se retrouve au FN et maintenant, il est aux Insoumis, je crois. Enfin, bon, je vous renvoie à ce livre. Mais tout est bien dans François Beaune, vraiment écrivain. Alors, écrivain beaucoup plus connu que François Beaune, Éric Vuillard. Qui a même eu le Goncourt il y a quelques années avec ce livre qui s'appelait quoi, L'ordre du jour. Bon, on connaît un peu ou on connaît pas, mais la touch de Éric Vuillard, écrivain très important, je pense. C'est lui, c'est pareil. Hein, il fait de la littérature documentaire aussi, qui n'est pas fictionnelle. Là, il se trouve que c'est un hasard. Hein, c'est pas exactement un hasard, mais j'ai pas voulu vous présenter que des livres documentaires. Mais c'est quand même une tendance très lourde de l'époque et sur laquelle. Il y aurait beaucoup à dire, quoi. Comment la littérature, en général, est en train quand même de se dissocier un peu de la fiction. En tout cas, on pourrait dire les livres les plus marquants ou les auteurs les plus marquants, un certain nombre d'entre eux, depuis 10, 15, 20 ans, sur la scène française en tout cas, pratiquent plutôt une littérature, je dirais, qui ne prétend pas fictionner, qui prétend au contraire documenter quelque chose avec, bien sûr, la mise en forme littéraire. Hein. Il s'agit tout autant de littérature que de la fiction. Et il y a des fictions qui sont inversement pas du tout littéraires. J'espère que c'est clair. Bon, Vuillard, lui, c'est un peu dans ce truc-là. Avec sa touch à lui, c'est une documentation historique. C'est-à-dire qu'il va prendre souvent des points névralgiques de l'histoire. Alors, par exemple, un de ses livres, L'ordre du jour, donc le Goncourt, c'était sur... Ça s'articulait autour du nazisme, et notamment plus précisément autour de ce qu'avaient été les parlementations entre le grand capital allemand et les dignitaires nazis ou le parti nazi émergent dans les années 20. Les premiers décidant de soutenir les seconds. J'espère que tout ça est su. C'est important pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là et pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire l'alliance du capital et du fascisme. Et donc, c'était l'intérêt de l'ordre du jour. Il a écrit un livre qui s'appelle 14 juillet, qui essayait de ressaisir ce qu'avait pu être la journée du 14 juillet, Faubourg Saint-Antoine, là où on a fini par prendre la Bastille, comme on dit. Et donc là, c'était plutôt un truc du côté du peuple. Mais c'est vrai qu'en général, Vuillard est quand même assez attiré par l'analyse des dominants. C'est un peu son truc. L'ordre du jour, c'était vraiment ça. C'était le grand capital allemand et ceux qui allaient prendre possession de l'Allemagne, les nazis. Dans son dernier livre, qui est mon préféré en date, s'appelait Une sortie honorable, c'était sur l'Indochine. Et là, il s'intéressait beaucoup aux députés, les députés qui, envers et contre tout, avaient continué à considérer qu'on allait garder cette colonie alors que tous les indicateurs allaient contre, par une espèce de fanfaronnade patriotique. Donc il s'intéressait aux députés, mais aussi bien sûr au pouvoir économique. Ça, Vuillard a des bons réflexes, le vrai pouvoir est là. Et donc il s'intéressait beaucoup aux administrateurs coloniaux, aux banques, la Banque d'Indochine. Voilà. Donc c'est vraiment un livre que je trouve le plus abouti de Vuillard, c'est celui-là. Là j'ai pris Congo, parce que c'est le dernier en date que j'ai lu, alors que ce n'est pas du tout son dernier en date, il est de 2012, et qui est quand même très bien. Et on retrouve justement cette fascination et cette envie d'analyser qu'a Vuillard, peut-être parce qu'il vient lui-même de la grande bourgeoisie, d'ailleurs c'est très intéressant. Les dominants, comment ça marche, quoi ? C'est ceux qui font le monde. Il se situe vers une conférence qui est trop peu connue, alors qu'elle est décisive. C'est la fameuse conférence de Berlin de 1884, où globalement les grandes puissances impériales, c'est quand même le grand moment de l'impérialisme, hein, c'est le grand moment colonial, on est à la fin du 19e. Bon, pour la France, c'est quand même là qu'on va un petit peu piller beaucoup de territoires. Moment, donc le grand moment colonial de l'histoire de France correspond à la Troisième République. Le grand moment colonial de l'histoire de France correspond à la Troisième République, laquelle, dans le même temps, inventait l'école, sans commentaire. Et donc là, conférence de Berlin 1884, ils se partagent l'Afrique. Allemands, anglais, français et quelques autres pays européens, il y a l'Afrique à se partager, on se la partage. Et notamment, on va se partager le Congo. Congo, immense territoire, et c'est plutôt les Belges qui vont en hériter, comme on sait, ça donnera le Congo belge avec ce roi Léopold, dont il est question ici. Et donc, il part de cette conférence de 1884, et il essaie de décrire, d'abord, il essaie de décrire comment se comportent ces dominants, et il essaie de choper quelque chose. Alors, je vais lire une phrase qui est intéressante, qui dit beaucoup déjà de la façon dont il prend les choses. Parce que, où est-ce qu'il est écrivain, Vuillard ? C'est qu'il se documente beaucoup en général. Hein. Il se documente pendant une année, deux années. Il lit énormément de choses. Et à la fin, ça fait quand même un livre de 100 pages, bon, à peine. Ça veut dire qu'il ramasse, quoi. Ça veut dire qu'il condense. Et c'est ça l'effort littéraire. Ça va être de densifier la chose. Plutôt que de vous étaler la documentation, il va la ramasser dans des phrases. Pourquoi ? Pour dégager la substantifique moelle de ce qu'il est en train de décrire. Et la substantifique moelle de cette affaire de 1884 et de partage colonial, eh bien ça apparaît dans des phrases comme ça. Et déjà, il pinaille, il au pluriel, c'est tous ceux qui sont autour de la table, hein, tous les États. Et déjà, il pinaille sur les réparations de la cage d'escalier, sur la façade qu'il faudra refaire, sur l'entretien des boîtes aux lettres. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça, c'est de la littérature. Parce qu'évidemment qu'ils n'ont pas parlé de boîte aux lettres ni de façade. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Vuillard ? Il est en train de vous décrire des gens qui sont en train de se partager l'Afrique comme des copropriétaires d'un immeuble sont en train de discuter des travaux qu'on va faire dans l'année dans tel immeuble, ravalement de façade ou autre. C'est intéressant, vous voyez ? Ça, c'est ça, écrire. C'est que tout de suite, ça crée un rapprochement entre des États et des copropriétaires. Ben oui. C'est la même chose, en fait. Les États ne sont jamais que des grands propriétaires qui sont intéressés par les deux choses qui intéressent toujours, qui sont les deux béquilles de l'éthos propriétaire, à savoir conserver mes propriétés. Un État veut toujours conserver son territoire et accroître mes propriétés, étendre mes propriétés éventuellement. Et donc ça, c'est plutôt l'impérialisme. On va aller chercher d'autres marchés, on va conquérir d'autres territoires et notamment l'Afrique, là, qui s'offrait à nous, qui n'attendait que nous pour qu'on la civilise. Donc vous voyez, c'est avec cette petite expression, il ressaisit bien ce que ça a été la conquête impériale, quoi, la conquête coloniale, c'est-à-dire l'ordre propriétaire continué par d'autres moyens, avec effectivement des territoires un peu plus vastes qu'une copropriété, un immeuble. Donc il met beaucoup en avant ça. Vuillard, il le fait dans tous ses livres, je pense qu'il... qui fondamentalement montre qu'à la base, il reprend un geste de base analytique, dire bon, quand même, au commencement est l'argent, quoi, au commencement est les avoirs et toutes les stratégies pour accumuler. Ça, il va beaucoup dans ce sens-là. Il y a un autre aspect de Vuillard dans tous ses livres, je dirais son aspect chrétien. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelqu'un qui est très très fort pour vous, pour transformer les structures en personnages. Il est persuadé que c'est les structures qui agissent le monde. À l'inverse du roman, le roman en général se fixe sur des personnages. Donc on va individualiser les choses dans un roman classique. Et lui, les personnages de ses livres sont des structures. Tout de suite, ça appelle une autre écriture et c'est passionnant comment il se débrouille avec ça. En même temps, il garde des bons vieux réflexes de romancier parce qu'il va souvent se fixer sur des personnages. En fait, il va à la fois, il montre les structures au travail, anonymes pratiquement, l'argent, le capital, l'État, le patriotisme, le colonialisme, tout ça, c'est des agents collectifs, des structures. Et puis parfois, il va quand même se poser sur des individus parce qu'il est quand même un peu fasciné par eux. Et quand même, il repose quand même malgré tout la question morale. Il repose quand même la question de la responsabilité individuelle. Oui, bien sûr, ces gens-là sont agis. Finalement, c'est des dominants et ils sont agis par leur pulsion de dominer. Et voilà. Mais quand même, ils y mettent parfois du zèle, quoi. Mais quand même, il y a quand même peut-être la variable individuelle qui intervient là-dedans. C'est-à-dire que revient un petit peu au galop l'idée qu'il y aurait quand même un peu des salauds. Voilà. Ce qui est une idée qui n'est pas, quand vous faites de la pensée structurelle, il n'y a pas de salauds. Il y a des gens qui sont simplement appartiennent à des structures et les défendent. Il y a quand même chez Vuillard une espèce d'inquiétude que j'appelle morale, qui est de dire, mais quand même, ils vont loin dans la saloperie, quoi. Alors là, par exemple, il va s'arrêter sur notamment le roi des Belges de l'époque. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle le Congo belge n'est pas le Congo belge que j'ai appris dans ce livre. C'est un Congo qui appartient au roi, en fait. Ça appartient pas à la Belgique. Ça appartenait au roi. C'est une espèce de... un truc domanial, quoi, vous voyez. Alors lui, il est allé loin un peu dans la folie, dans le côté ubuesque un peu. Et il avait une espèce de alors je sais plus ce que c'est, administrateur, tout ça, qui coupait des mains. Il s'appelle Fievez, drôle de mec, qui très clairement faisait du zèle par rapport à ce qui était strictement nécessaire pour mettre en ordre le Congo et mettre au pas les populations locales. C'est le zèle qui titille un peu Vuillard. Mais comment ça se fait qu'ils mettent du zèle, en fait? Pourquoi ce zèle dans la cruauté? C'est pas strictement utile, au contraire, même c'est contre-productif, parce que trop de cruauté vous expose quand même peut-être à la vindicte populaire. Bon, alors voilà, d'un moment, est-ce qu'il n'y aurait pas du mal au travail? Donc là, on revient avec on part sur des bases un peu marxistes, puis finalement, on arrive à des trucs un peu métaphysiques, quoi. Et alors, du coup, l'autre interrogation de Vuillard, c'est, qui s'adosse à celle-là, c'est l'interrogation, c'est, sont-ils des méchants, en fait? Et l'autre interrogation, c'est, est-ce qu'il y a quand même une bonté possible en eux? Voilà, alors donc ça c'est au travail dans son livre sur l'Indochine, c'était au travail dans l'Ordre du Jour aussi, en fait c'est partout, parce que je pense qu'il a un fond chrétien, je pense qu'il va vers là. Alors par exemple, ça donne ce genre d'interrogation, page 55, j'ai écrit, voilà, donc page 55. Oui, à un moment il parle d'un certain Lemaire, qui a été un administrateur colonial pas moins cruel que les autres et qui faisait des rapports. Et puis à un moment, bon, il revient en métropole et il relit un de ses vieux rapports 10 ans plus tard. Et là, il est horrifié parce qu'il a écrit. Alors il dit, Vuillard écrit, c'est là, dans ce sentiment d'horreur avoué, que je puise ma petite goutte d'espoir. C'est Vuillard, c'est rare qu'il dise je, mais là il dit je puise ma petite goutte d'espoir. Dans l'horreur qu'a eu ce type à relire les rapports qui témoignaient de ses propres exactions coloniales, il voit une petite goutte d'espoir. Oh, pas grand-chose, juste de quoi reculer à quelques millimètres de l'épouvante, juste de quoi sortir les yeux de la grande carcasse de bête et du sentiment d'oppression, et regarder le réseau de pistes boueuses sillonnant un pays vide, et imaginer le jeune homme, Charles Lemaire, sur un sentier de terre au milieu de la forêt. Et là, il va se mettre à l'imaginer... gagné par le repentir, voilà, parce qu'il y a une lumière peut-être encore en lui, quoi. Est-ce que ces gens sont encore accessibles à l'idée même que ce qu'ils font est dégueulasse, ou est-ce qu'ils seront dans une espèce de certitude d'eux-mêmes très largement auto-légitimée? Il y a souvent ça, cette interrogation, qui fait que là, du coup, il y a des passages dans le livre qui rejoignent des réflexes un peu romanesques de base, quoi. C'est-à-dire s'interroger sur un personnage, quoi. Est-il bon, est-il méchant? Puis c'est vrai que c'est une question qui est fondamentale, si vous voulez. Moi aussi, je suis assez porté sur la pensée structurelle et c'est les structures qui m'importent. Et en même temps, je me demande souvent qu'est-ce que se racontent ces gens quand ils sont tout seuls avec leur conscience, comme on dit. Qu'est-ce qu'ils se racontent le matin, quoi, quand plus personne ne les regarde? Parce qu'ils mentent devant les caméras, ça c'est normal, c'est leur boulot. Mais est-ce qu'ils se mentent à eux-mêmes quand ils se regardent dans la glace, quoi? Est-ce qu'ils disent « Ouais, non, c'est vrai que je mens toute la journée, mais je sais très bien ce que je fais. » Ou est-ce qu'ils finissent par croire à leurs propres mensonges? Est-ce que quand même, de temps en temps, ils sont accessibles à une sorte de scrupule, genre « Mais est-ce que je ne serais pas un salaud, en fait ?» C'est une vraie question. C'est une question que je me pose et que peut-être seul le roman peut traiter, parce que ça, vous n'aurez pas ça dans la chronique politique. J'enchaîne avec un autre écrivain que j'aime bien de notre temps. Écrivain de notre temps, c'est le nom de mon émission. Et donc, Sylvain Tesson, je vous ai invité pour votre dernier livre de gauche. Alors là, attends, c'est pas Sylvain Tesson, extraordinaire écrivain, Sylvain Tesson, Pierrick Bailly. Pierrick Bailly, ça fait, je sais pas, une vingtaine d'années qu'il publie. Ouais, une quinzaine d'années. Son premier livre s'appelait Polichinelle, c'était très bien. Puis depuis, là, il nous a donné 7 ou 8 récits. Celui-là est quand même un des plus aboutis, il s'appelle La Foute, sorti en septembre dernier, je crois. Alors, ce qui m'intéresse chez Bailly, c'est moi qui suis plutôt styliste en général et assez client d'écrivains stylistes, d'écrivains dont le brio apparaît dans la phrase. Ça serait le cas d'Élodie Fiaban, ça serait le cas de François Beaune dans ceux que j'ai présentés, puis ça serait le cas de tout un tas d'écrivains que je peux aimer dans le contemporain. Non, c'est pas la phrase de Bailly qui m'intéresse. Ça va pas jouer à l'échelle de la phrase. Et ça, c'est un petit peu comme en cinéma. Vous savez, il y a des gens qui travaillent à l'échelle du plan, il y en a qui travaillent à l'échelle de la scène, puis il y a des gens qui travaillent à l'échelle du récit. Bah, en littérature, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui travaillent essentiellement à l'échelle de la phrase, d'autres à l'échelle du paragraphe, d'autres à l'échelle du récit. Et bah, Bailly, où je trouve qu'il est hyper fort, c'est dans le récit. C'est-à-dire qu'il a le chic, dans tous ses livres, mais peut-être celui-là plus que les autres, pour pondre des sacrées fictions, quoi, et pour nous accrocher avec des bons scénarios, j'allais presque dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon scénario ? C'est d'abord une bonne accroche de départ, quoi. L'accroche de départ dont j'ai pensé en lisant le livre qu'elle était inspirée du réel, n'est pas du tout, il l'a inventée. Il s'est peut-être vaguement inspiré de quelque chose, comme on s'inspire toujours de quelque chose en fiction, mais il l'a inventée. Et c'est une très bonne accroche. Le narrateur, qui s'appelle Julien, alors, il est un berger dans le Jura. Il se trouve que Pierrick Bailly habite dans le Jura aussi. Il a un côté un peu comme ça, homme des montagnes. Il vient du Jura, d'ailleurs, c'est sa terre. Et tous ses livres se passent là-bas. Et ça rend déjà très intéressant sa géographie. Enfin, c'est pas courant, quand même, des écrivains qui seraient basés dans ce territoire. Et donc là, ouais, le narrateur qui lui ressemble un peu s'appelle Julien. Il est berger, donc il garde des troupeaux, comme ça. Et un jour, dans le journal, il lit qu'un certain Alexandre, alors Martin, je crois, est en prison parce qu'il a tué quelqu'un. Et ce Alexandre Martin se trouve être un ami du lycée. Très bonne accroche. Et c'est simple. Hein. Les gens se disent, oh là là, mais comment... Enfin, j'aimerais bien raconter une histoire, mais j'ai pas d'idée. Mais là, vous avez tout, en fait. C'est bon, c'est gagné, en fait. Imaginez-vous à la place d'eux. Surtout que Bailly, il écrit très simplement. C'est-à-dire que ces personnages nous ressemblent vraiment. Ils ont aucune... texture, de personnages littéraires. C'est des gens comme vous et moi, vraiment. Moi, je me reconnais beaucoup dans ces narrateurs, avec bon, finalement des gens relativement anodins, qui ont une vie relativement ordinaire. Donc, vous êtes quelqu'un d'ordinaire, comme à peu près tout le monde, en fait. Et vous ouvrez le journal le matin pour voir le résultat de l'équipe de foot de la veille ou quelque autre nouvelle. Et vous voyez votre pote de lycée d'il y a 25 ans qui est un assassin. Super, super entrée! Super entrée. Et alors, vous allez vous renseigner. Alors après, donc du coup, ça va ouvrir un truc. Et c'est pour ça qu'il fait 400 pages, parce qu'il y a tout à déplier dans cette affaire. Non seulement, il y a l'affaire elle-même, parce que le mec va être jugé. Et donc, il y aura le procès, il y aura les suites du procès. Et puis, il y a les rapports de Julien à ce mec. Et donc, il va raconter quels étaient leurs rapports au lycée. On va se rendre compte qu'il y avait un rapport de fascination, un peu. Que lui, il était un peu le type un peu intimidé, inhibé, qui était un peu fasciné par cet Alexandre, qui était un peu la grande gueule flamboyante du lycée, qui avait déjà une conscience politique extrêmement forte. Après, il se trouve que le fait divers lui-même est intéressant, le crime est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas vraiment un crime. On sait pas. La justice doit trancher. Il a asséné un coup de planche à quelqu'un, probablement sans du tout volonté de le tuer, mais il se trouve que le coup de planche a été particulièrement brutal et ça a tué la personne. C'était plutôt une baston au départ. Et une baston entre qui et qui ? Entre cet Alexandre, qui s'était installé à la campagne, mais qui lui est animaliste, c'est-à-dire qu'il est très très soucieux de la condition animale, et il a eu maille à partir avec... c'est 5 ou 10 ? 5. J'ai mon timer. C'est comme ça à la télé, on est très pro, on est très... Voilà, le type qui joue son trip jusqu'au bout. Je vais vite. Et voilà. Et donc, il s'est installé à la campagne, un peu par souci de la condition animale, etc. Et donc, il a eu un peu maille à partir aux agriculteurs du coin, qui sont des éleveurs et qui traitent pas forcément les bêtes aussi bien qu'ils pourraient, ça dépend lesquels, etc. Donc, en fait, il y a eu comme ça une espèce de conflit villageois qui s'est transformé en baston. Et dans la baston, il a tué quelqu'un. Donc, c'est passionnant parce que déjà, c'est ouvert jusqu'à quel point le type est violent, pas violent. En plus, il y a un soubassement idéologique qui est quand même vachement intéressant. D'abord, c'est des bonnes zones de friction, en fait, vous savez, entre les éleveurs et les animalistes. Moi, j'ai, comment dire, les deux m'intéressent. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'opinions tranchées sur la question. Je trouve qu'il y a des éleveurs qui font bien leur travail. Des petits éleveurs, les gros, ça, ils bousillent tout, mais les petits, ils aiment leurs vaches, ils aiment leurs ovins ou autres. Mais l'animalisme, c'est intéressant. C'est une position très intéressante, en fait, très nouvelle, très récente, très intéressante. Donc, la friction intéressante. Donc, vous voyez, déjà, il y a un livre dans le livre. Hein, et puis, il y a plein de livres dans le livre. C'est ça, un bon récit. C'est quelque chose qui va comme ça pouvoir se développer en cascade. Alors après, c'est vrai qu'il a le chic pour vous entraîner. Alors, mais il le fait de façon extrêmement désinvolte et bonhomme. Quoi. On ne dirait pas du tout un type qui verrouille son récit de façon un peu standard et cadrée. Il y a des gens comme ça qui sont presque devenus des machines à raconter. Ça, c'est ceux qui font des best-sellers. Pierrick Bailly, c'est pas ça. C'est juste il a une bonne histoire et il essaie de bien vous la raconter en fixant des enjeux. Donc je passe le détail, je vous invite à découvrir quelles vont être les incidences de ce récit, mais c'est intéressant. Je voudrais juste donner un petit aperçu de son style, qui est ce que j'appellerais un style modeste. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est vraiment un style qui n'est pas du tout caractérisé par son orfèvrerie stylistique. Je trouve que parfois d'ailleurs il exagère un peu. Je trouve qu'il sous-écrit de temps en temps, mais je crois qu'il s'en fout. Je lui dirai si je le croise, mais je crois qu'il s'en foutra. Il dira, oh, je retourne dans le Jura et je t'emmerde. C'est un mec éminemment sympa, on a un ami commun, puis je l'ai croisé, enfin bref. Ouais, non, il a une langue modeste que j'aime bien, dans le bon sens du terme. Modeste peut être un truc discutable parce que presque trop sous-travaillé, à mon sens, et en même temps modeste dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un style anti-dogmatique, anti-assertif. C'est-à-dire que vous avez un narrateur qui est constamment, qui est très sympa et toujours en train de penser contre lui et qui n'assène jamais des formules sur la vie, tout ça. Il est plutôt, au contraire, en train d'auto-douter en permanence. Et donc, ça donne des passages comme ça. Il y en a plein dans le livre, il y en a 100. Alexandre me guidait. Alors là, il est en train de raconter le Alexandre de l'époque. Alexandre me guidait, il m'aidait à y voir plus clair. Comment dire ça ? Il m'aidait à réfléchir. Est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que je peux dire qu'il m'a appris à réfléchir ? Qu'il m'a rendu moins con ? J'avais l'impression de comprendre Alexandre. Ça, je peux le dire, oui. Donc vraiment, il y a ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on ne peut pas dire. Mais voyez comment il tâtonne, quoi. Il dit, je tente une hypothèse, je tente un énoncé. Non, je ne peux pas dire ça. Oui, ça, peut-être que je peux le dire quand même. Vous voyez, j'aime bien cette littérature qui est embarrassée de ses propres affirmations. Ce que je trouve toujours très intéressant par rapport à d'autres qui vous balancent du au kilo des assertions. Voilà, ça me fatigue beaucoup plus. Ça. Alors j'ai à peine le temps, tant pis, je voulais présenter aussi Yves Ravet Taormine, je vous le recommande. Mais juste, je ferai un petit mot pour finir sur Éric Chauvier. Plexiglas, mon amour, quel beau titre. Alors Chauvier, bon, je vous recommande tout Chauvier. Pour le dire très vite, Éric Chauvier, il est anthropologue à la base ou sociologue. Simplement, de livre en livre, il a glissé vers la littérature. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout genre, je suis anthropologue, donc je suis sérieux, je fais des trucs un peu scientifiques, et pour me divertir, mais par ailleurs, j'aimerais bien être écrivain, donc là, je fais de la fiction ou de la littérature. C'est dans le fil même de sa réflexion anthropologique qu'il en est arrivé à la littérature. C'était pour continuer l'effort anthropologique qu'il a dit j'ai besoin de la littérature, j'ai besoin de styliser, j'ai besoin de personnifier, j'ai besoin de subjectiver. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est senti à l'étroit dans la langue anthropologique. Et donc il a eu besoin d'étirer un peu sa langue pour rendre compte du réel qui lui importait. Ça, c'est vraiment un parcours que je trouve passionnant. Donc, du coup, il va de plus en plus vers, je dirais pas la fiction à proprement parler, mais vers quelque chose qui ressemble de plus en plus à des récits, avec des personnages, avec des situations, avec même parfois un débordement presque fantastique dans certains de ses livres, parce qu'il est assez attiré par là. Donc là, Plexiglas, mon amour, c'est très simple. Ça part de la situation Covid, donc confinement, Covid, tout ce qu'on a connu. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire le bilan littéraire de cette période. Ça serait vraiment intéressant. Moi, je pense, mon intuition, mais j'ai pas tout lu, hein, c'est qu'en fait, littéralement, ça n'a rien produit. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à en dire sur, il y aurait beaucoup à en déduire sur ce qu'a été cette période en fait. Parce que parfois, il y a des périodes dont on se dit qu'elles vont être très fécondes littérairement. On se dit, tiens, il se passe un truc là, il se passe un truc énorme, et donc ça appelle littérature. Mais en fait, c'est parfois une fausse bonne idée ou une fausse bonne période, comme on dirait. Moi, je pense pas que la période Covid était au bout du compte une période très passionnante en tant que telle, en tout cas, dont on puisse tirer. Pourquoi ? Parce qu'elle elle a été vécue comment, cette période, par la grande majorité des gens, et notamment par la grande majorité des écrivains. Ce n'est pas une période de Covid, c'est une période de confinement. C'est pas pareil. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a vécu concrètement, nous, dans nos corps? À part si on était malade. Quand on était malade, bah, on a vécu le Covid 15 jours, 3 semaines, 3 mois, et parfois avec des séquelles. Mais indépendamment de ça, en fait, ça aurait été être confiné. Mais être confiné, c'est pas une expérience extrêmement passionnante en soi. J'ai pas grand-chose à raconter sur le confinement. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Il y en a qui se sont dit « Ouais, moi, je vais écrire un livre, ce sera moi qui serai confiné. » Et ouais, ben non, en fait, ça donne rien. Alors, ça donne quelque chose si vous appelez Éric Chauvier et que plutôt que de raconter votre petite vie inintéressante de confiné, vous allez vraiment essayer de dégager, encore une fois, la quintessence de cette période et de vous situer au point de dissensus de la période. Et le point de dissensus va être incarné par deux personnages dans Plexiglas, mon amour. Lui, il est, le narrateur ressemble un peu à Éric Chauvier. Il est père de famille avec une femme et deux enfants. Vraiment, famille lambda. Les enfants regardent des ch'tis à Miami. Enfin, on est vraiment dans une famille française de base. Et on est pendant la période Covid. Et il se trouve qu'il croise un ancien copain à lui, parce que lui vient plutôt d'un village, d'un bled, quoi. Et il croise cet ancien copain de lycée et de fac qui s'appelle Kevin. Et qu'il comprend très très vite, il le croise à la pharmacie, il comprend très vite que le mec est devenu un peu survivaliste complotiste. Un peu ce qu'on dit pour dire grossièrement. Donc au départ, il se fout un peu de sa gueule parce que le type commence à lui parler, ça y est, c'est la fin du monde, il faut s'organiser, il faut prendre des bois, de toute façon on nous ment, de toute façon le Covid c'est un truc des labos, etc. Et le premier réflexe d'Éric Chauvier, en tout cas du narrateur, c'est de dire, ok, bon, le mec a mal tourné, il a vrillé, il se marre un peu, il le prend de haut, il le prend au deuxième degré. Il dit, ouais, non, bien sûr, non, non, mais bien sûr, les labos, ouais, mais en même temps, il le laisse parler. Bon, le mec est devenu fou, en fait, j'ai perdu un copain, etc. Premier sentiment. Puis après, il rentre chez lui, et là, sa femme devient de plus en plus folle. C'est-à-dire qu'elle est, elle, au contraire, c'est tout le contraire de Kevin, elle est dans l'hypercrédulité par rapport à la situation. Elle dit, vraiment, il y a une épidémie, il y a une maladie, on va tous mourir, il faut qu'on se protège. Et lui vient de tomber malade, donc elle décide de le protéger à la maison même. Elle fait des mesures barrières à la maison même. Et d'où Plexiglas, mon amour, parce qu'elle lui impose une pièce confinée où il ne touche pas aux enfants, etc. Mais elle le fait avec amour. Elle le fait avec bienveillance. C'est pour ton bien, lui dit-elle. Vous voyez, c'est la fameuse dictature par la bienveillance. Donc d'un côté, vous avez une hyper-normalité, une normopathie, on pourrait dire. Et de l'autre côté, un type hyper-sécessionniste et hyper-séparatiste qui, lui, ne croit rien. C'est une espèce de deux excès qui se regardent. Ma femme est dans l'hyper-crédulité et Kevin serait dans une espèce d'excès d'incrédulité qui serait un petit peu caractérisé par une espèce d'esprit conspi qui serait dire « je ne crois plus rien du tout ». Et la littérature, elle est où ? La littérature, elle est évidemment entre les deux. Elle est, il navigue un peu, le narrateur. Il dit, parce que quand même, il trouve, au départ, il est plutôt du côté de sa femme, quand même, mais il trouve qu'en fait, elle est aussi folle que Kevin. C'est deux folies symétriques qui s'inversent, mais c'est deux folies quand même, quoi. Et plus sa femme devient la vraie folle, et plus il trouve que Kevin a peut-être un peu raison, quoi. Et donc, il va un petit peu suivre Kevin, toujours un peu perplexe, mais plus il va être de plus en plus attiré par Kevin. Et ça, je finirai là-dessus, c'est ça qui est vraiment passionnant chez Chauvier. D'abord, c'est son honnêteté, de rendre compte comme ça d'un certain nombre d'atermoiements. Mais c'est surtout, c'est son geste politico-littéraire de base, c'est en général prendre le temps de regarder et d'écouter des gens qu'un certain discours officiel a eu tendance à juger un peu vite et à balayer un peu vite. Et notamment, c'est vrai que Chauvier s'intéresse beaucoup à cette espèce de petit peuple-là, un peu énervé, ce qui a peut-être été cristallisé par le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Mais il n'a pas attendu les Gilets jaunes pour s'y intéresser. C'est-à-dire, un Kevin dit, ouais, le type est un peu pété, qu'est-ce que c'est que ça, il va trop loin, etc. Chauvier, il ne va jamais dire Kevin a raison. Il ne va pas dire, oui, il faut tout de suite prendre des bois et les labos sont que des menteurs. Par contre, il va s'intéresser. Il va vraiment prendre le temps d'écouter. Il va dire, mais en fait, il y a une vérité dans Kevin. Il y a quelque chose. Kevin tient une vérité. Il ne tient pas la vérité, mais il tient une vérité. Et donc, peu à peu, le narrateur va, et le livre va suivre Kevin. Peut-être pas adhérer à Kevin, mais au moins prendre le temps de voir la puissance de Kevin. Voilà, c'est là. Il y a quelque chose, il y a une position puissante. Il y a un dernier truc que je trouve passionnant sur le personnage de Kevin et qui est un élément un petit peu de perplexité que peut avoir le narrateur par rapport à lui et que je trouve très juste. C'est qu'il est noté assez souvent qu'il n'a pas d'humour, qu'il est sérieux, qu'il a un principe de sérieux absolu. Il est dans un premier degré absolu. Il ne comprend pas la langue implicite. La langue implicite, c'est quand vous dites un truc, puis il y a une espèce de petit sous-texte. On fait tout ça à l'oral d'ailleurs. Tout le monde fait ça. Et lui, il n'est que dans la langue explicite. Donc c'est un mec de premier degré pur. Et pourquoi il est dans le premier degré pur, Kevin ? Parce qu'il pense que c'est la fin du monde. Il pense que l'époque est urgente, quoi. Que c'est plus le moment de rigoler. Il faut que des énoncés clairs maintenant. C'est un petit peu comme quand vous êtes sur le front. Sur le front, vous ne pouvez pas avoir d'ordre ambigu. Quand vous êtes en train de vous battre par l'armée, par exemple, ne peut pas y avoir d'ordre un peu subtil, genre ouais, je vous dis ça, mais en fait, il fallait attaquer par la droite, mais tout le monde s'est compris, parce qu'on est au deuxième degré, ou alors on peut déconner, quoi. Non, on ne peut pas déconner. On ne peut pas déconner. Et comme Kevin est en mode, ça y est, le grand affrontement, c'est maintenant, il ne comprend pas les formules humoristiques du narrateur, qui lui, évidemment, est encore un peu dans son petit deuxième degré de type, voilà, d'écrivain, quoi. C'est-à-dire, je m'intéresse, en même temps, j'y crois pas des masses, mais en même temps, ça m'intéresse. Tiens, il dit à un moment, Kevin est une matière à penser. Ouais, mais c'est ça. Moi, je me reconnais bien là-dedans. Des fois, je m'intéresse à des trucs parce que je trouve que c'est une matière à penser, quoi. Et bon, déjà, ça témoigne d'un certain intérêt. En même temps, ça n'est jamais qu'une matière à penser. C'est-à-dire que, y a toujours un peu de distance quand on écrit. Et donc, Chauvier est un peu dans la distance. Kevin, pas de distance. Et c'est intéressant. Là, c'est vraiment un livre qui se pose au cœur des enjeux de notre époque, quoi. Jusqu'à quel point la situation est tellement urgente que ce soit plus le moment de déconner. Et ce qui serait aussi une façon pour Chauvier de dire jusqu'à quel point la situation est tellement urgente que c'est même plus le moment d'écrire des livres. C'est même plus le moment de faire des coquetteries littéraires. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Chauvier, comme à peu près tous les écrivains que j'aime. C'est que c'est quelqu'un qui en permanence se demande quand même s'il est tout à fait légitime d'écrire des livres. Et je pense qu'un bon écrivain ou une bonne écrivaine doit toujours se poser cette question sur la pertinence de faire ce truc quand même relativement gratuit et inutile qui s'appelle écrire des livres. Voilà, j'ai fini l'émission pour aujourd'hui parce que je crois que c'est. Jingle de fin? Il n'y a pas de jingle de fin? Ben voilà. Ah, je suis hyper déçu. Moi, j'étais venu pour le jingle de fin, quoi.
Bah, merci beaucoup François Bégodeau pour avoir partagé ces livres avec nous. On peut vous retrouver à 16h en Vie du Citoyen pour parler de votre dernier
livre. Oui, d'un livre de moi pour le coup. Ouais.
Voilà. Merci beaucoup.